Bonjour, ici Jean-Daniel Messinger qui vous propose le nouveau numéro de Chronique pour la paix sur Radio Shalom, émission bimensuelle parrainée par J-Call et La Paix Maintenant. Nous sommes aujourd'hui avec Patrick Klugman pour évoquer le projet de la nouvelle loi sur la peine de mort en Israël. Rappelons que cette loi exceptionnelle a été adoptée en première lecture par 39 voix exprimées contre 16. Il est stipulé qu'un terroriste reconnu coupable de meurtre motivé par le racisme ou la haine envers le public et dans des circonstances où l'acte a été commis dans l'intention de nuire à l'État d'Israël soit condamné à la peine de mort obligatoire. Donc Patrick Klugman est avocat, militant antiraciste, engagé politiquement. Je le laisse compléter un petit peu sa présentation en quelques mots. Bonjour Patrick Klugman.
J'ai été de tout temps d'abord un militant de l'antiracisme et un militant de l'engagement juif dans ce qu'il a de plus universel. J'étais président de l'UEJF il y a pas plus d'une vingtaine d'années maintenant. Et aujourd'hui, il me reste un engagement important, deux, dans la communauté juive. Je préside le comité français pour Yad Vashem, qui s'occupe beaucoup de reconnaissance des justes parmi les nations. Et une autre responsabilité qui me tient beaucoup à cœur, c'est que je reste attaché au CRIF, dans lequel je représente une association un peu éteinte qui s'appelle Socialisme et Judaïsme. Et donc je reste au CRIF, proche du CRIF et de son leadership actuel. Et dans tout ce temps-là, effectivement, je suis avocat, j'ai une pratique d'avocat pénaliste en France et à l'international. J'ai monté une boîte de médiation internationale qui est importante. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre? Puis j'ai fait évidemment de la politique. J'ai été notamment conseiller de Paris, adjoint à la maire de Paris en charge des relations internationales.
Bon, impressionnant. Voilà pour... Ok, impressionnant voilà. comme parcours. Alors,
ça, c'est le parcours.
Oui. Donc, du coup, revenons à notre sujet. Même si elle n'a été appliquée que deux fois depuis 1948, la peine de mort est toujours en vigueur en Israël. Mais que dit cet élargissement de cette sanction?
Oui, alors, la peine de mort, elle a été appliquée dans le cadre des responsables des crimes contre l'humanité. Évidemment, on se souvient de la peine capitale qui a frappé Eichmann et qui a été évidemment commentée par le livre, le compte-rendu qu'on a fait Hannah Arendt. C'était une manière de dire que, comme dans la tradition juive, l'État d'Israël démocratique connaît la peine capitale, mais en fait, ce qu'on disait dans la tradition juive, c'est qu'elle ne peut être prononcée que par un tribunal dans des circonstances extraordinaires, mais le tribunal qui la prononcerait serait trop sévère, donc il ne faudrait pas l'appliquer. C'est ça que dit la tradition juive sur la peine de mort. Et donc, l'État dit soit que pour des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire pour des crimes qui ont été commis antérieurement à son existence, dans des circonstances éteintes, puisque la Shoah avait cessé d'exister avant la création de l'État d'Israël. Donc, c'est-à-dire que l'État d'Israël que nous connaissons n'avait pas vocation ordinairement à appliquer la peine de mort. Et c'était assez remarquable qu'il s'agirait quasiment d'un des seuls États qui n'aurait jamais connu la peine capitale dans son droit positif. Et là, donc, il s'agit d'une, non pas d'une avancée, mais d'une régression. Et d'une régression qui pose un problème fondamental et d'ailleurs qui serait susceptible de heurter ce qu'on appelle les lois fondamentales israéliennes, puisque, en gros, serait passible de la peine capitale les terroristes, on va dire, palestiniens, dans certains cas, mais pas ceux qui voudraient tuer des Palestiniens au nom de leur idéologie. Et donc, ce texte, tel qu'il est rédigé, porterait atteinte quand même au principe d'égalité entre les citoyens, qui existe évidemment en Israël comme il existe dans n'importe quelle démocratie. Donc, on aurait quand même une chance que ce texte soit censuré par la Cour suprême, au sens où il porterait atteinte au principe d'égalité, tout simplement. Tant une une adoption par la Knesset qui a déjà été faite en première lecture et qui doit revenir après en lecture subséquente.
D'accord. Mais du coup, qu'est-ce que ça dit ? Il y a un caractère obligatoire à cette peine de mort. Elle est rétroactive. Elle est de la compétence. Elle peut être de la compétence d'un tribunal militaire. Bon, elle a donc un caractère discriminatoire. Qu'est-ce que ça dit de cette loi, en fait ?
Non, d'abord, il y a un des indicateurs, un des indicateurs onusiens, qui est beaucoup poussé par la France, d'ailleurs, de l'avancement démocratique d'un pays. Alors évidemment, ça comporte des exceptions, la première d'entre elles étant évidemment les États-Unis. C'est que pour ranger dans la série des critères qui permettent un pays démocratique de manière avancée ou pas avancée, il y a effectivement est-ce qu'il a la peine capitale et dans quelles circonstances, etc. Donc en gros, c'est un mauvais point pour l'avancement démocratique de l'État d'Israël de réintroduire ou de développer la peine capitale dans son système pénal. Ça, c'est la première chose que l'on peut noter. La deuxième, moi, j'ai pas lu le texte. Déjà, je lis pas l'hébreu et je n'ai pas attentivement lu le texte. J'ai juste vu qu'effectivement, il était rédigé pour permettre à l'État d'Israël de n'exécuter que des terroristes musulmans.
Tout à fait.
Et donc, effectivement, il est, ce que je disais, il est discriminatoire dans son libellé, de ce que j'ai vu, et donc il porterait, la discrimination, c'est ce qui porte atteinte au principe d'égalité entre les citoyens.
D'accord.
C'est un mauvais texte, c'est un mauvais texte pour ce qu'il nous dit d'Israël, de sa majorité, et voilà. Après, les observateurs disent qu'il n'est pas encore adopté, qu'on pourra revenir dessus, etc. Je n'en sais rien. Ça, je ne suis pas assez connaisseur du système, là, pour le coup, non pas juridique, mais politique israélien.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la peine de mort sur son caractère dissuasif ?
Alors, ce qu'on peut en dire, mais c'est ce que nous, on en fait en France, c'est qu'évidemment, la peine de mort n'a jamais dissuadé qui que ce soit. Le meilleur exemple en France était toujours celui qui était cité par Robert Badinter. C'est que dans les foules énervées qui criaient « à mort Buffet, à mort Bontemps », le premier procès, la peine capitale qui a été prononcée où a plaidé Robert Badinter, il y avait le jeune Patrick Henry qui sera plus tard défendu par Badinter et d'abord condamné, puis après sauvé par Badinter. C'était l'exemple qu'il donnait, mais on sait très bien que dans aucun pays où il y a la peine capitale, le crime aurait disparu. Donc c'est complètement fou. Ça l'est encore plus quand on sait que il y a, dans la perspective du terrorisme, il y a une dimension fondamentaliste, et que le but de l'opération terroriste, pour l'auteur, c'est de mourir en martyr.
Tout à fait.
Donc, non seulement elle ne serait pas, au cas d'espèce, incitative, elle ne serait pas dissuasive, elle serait presque incitative. Vous dites, si tu fais cet attentat, tu risques d'être condamné et de mourir, c'est beaucoup moins dissuasif que de dire tu vas passer le restant de tes jours dans une prison israélienne.
Ouais, oui. Du coup.
Voilà ce qu'on peut dire sur le caractère non dissuasif.
D'accord.
D'accord.
L'opinion publique, dans un sondage un petit peu ancien déjà, qui date de 2017, avait l'air d'être assez favorable à la peine de mort.
Quelle opinion publique on parle ?
Israélienne.
Oui, enfin, toutes les opinions publiques sont sensibles à cela, sachant que. Encore une fois, le débat sur la peine capitale en Israël, il ne peut pas s'entendre de la même manière qu'en France. À savoir que, évidemment, un pays en guerre n'a pas le même rapport à la mort qu'un pays en paix. Et d'ailleurs, ça s'est très bien vu après le 7 octobre. Moi, qu'est-ce que j'ai fait après le 7 octobre ? J'ai regroupé des victimes françaises, je suis allé porter plainte, etc. Ouais. Qu'est-ce qu'a fait Israël ? Ils n'ont pas cherché à juger les auteurs du 7 octobre. Ils ont cherché, avant toute chose, considérant que c'était une attaque militaire, ils ont cherché à mettre les assaillants hors d'état de nuire et à décimer cette armée qui était le commandant militaire du Hamas. Là, je ne fais pas de la politique, je dis juste voilà ce qui s'est passé. Nous, en France, après, par exemple, le 13 novembre, on a eu finalement une approche mixte. Il y a eu la guerre faite à l'État islamique, une vraie guerre avec des moyens militaires, qui était gagnée. Et puis, par ailleurs, pour les auteurs sur le sol français qu'on a pu appréhender, on a fait un procès. Mais c'est très français comme approche. Les États-Unis, après le 11 septembre, il n'y a pas eu de grand procès du 11 septembre. Donc, et chaque pays a sa pratique de ce qu'on appelle les exécutions extrajudiciaires. Israël étant sans doute le pays qui y a le plus fréquemment recours parce que ça fait partie tout simplement de sa doctrine militaire.
Oui, donc,
et depuis ouais. le début, alors là on ne peut pas parler de dérive, Israël veut marquer sa souveraineté en faisant savoir à ses ennemis même qu'ils peuvent être frappés où qu'ils se trouvent. C'est partie de l'ADN militaire d'Israël. Donc encore une fois, notre rapport à la peine capitale, qui là est une sanction judiciaire, n'est évidemment pas du tout le même et est très marqué par notre culture politique et militaire. Mmh. Et il faut quand même mettre ces éléments dans le débat. Maintenant, et évidemment, on peut comprendre qu'une opinion publique qui a été marquée au fer rouge par l'attaque du 7 octobre, par les prises d'otages qui sont à peine en train de se dénouer ces derniers jours et qui ne le sont pas encore tout à fait, on peut comprendre que cette opinion publique-là ait envie que le terrorisme soit réprimé de la manière la plus excessive possible.
Oui, alors bien sûr, on peut comprendre que...
Mais sachant que l'opinion publique israélienne, elle est aussi travaillée par des forces politiques qui sont très démagos, et que c'est un des... je le dis très librement, ouais. C'est un des débats publics les plus dégradés du monde, et on le sait. Donc, je dirais que c'est pas le bon moment... et certainement pas les bonnes circonstances pour réfléchir à son système pénal.
Oui. Mais ce projet, s'il devait se faire, porterait un coup énorme à la démocratie. Qu'est-ce qu'on...
Oui, en tout cas, ça rentre dans les séries de mesures qui sont dans le sens de diminuer l'état de droit ou l'avancement démocratique de l'État d'Israël, qui était pourtant remarquable.
Oui. Robert Badinter, il en aurait dit quoi ?
Ah bah, Robert Badinter, qui était, on ne le dit pas toujours assez, mais qui était vraiment... je ne pense pas qu'il aurait employé le terme de passionné mentionniste. Enfin, en tout cas, il a marqué à de très nombreuses reprises qu'il n'était pas du tout indifférent au sort de l'État d'Israël et qu'il avait des liens avec Israël. Il aurait été, je pense, effondré parce qu'il pensait... Si vous regardez que les mots qu'il emploie dans ses plaidoyers contre la peine de mort, ce sont, même s'ils ne sont pas formulés comme tels, ce sont des plaidoyers très juifs. À la fin, son argument numéro un, c'est que l'homme n'a pas le droit d'ôter la vie à l'homme. Et donc, celui qui le fait est le criminel, mais l'État ne peut pas se comporter comme un criminel. C'est quasiment une prescription morale ou religieuse. Mmh. Bon. Et Robert Badinter, que j'ai eu la chance de connaître, il avait une très haute idée de l'homme juif. Et je pense que le fait que l'État des Juifs se parjure à sa propre histoire l'aurait profondément attristé.
Merci Patrick Klugman. Même si les terroristes coupables de crimes doivent être bien sûr... condamné avec toute la rigueur nécessaire. On espère que cette loi inique et indigne sera abandonnée, car non seulement son application n'aurait aucune efficacité, mais elle contribuerait à exacerber le conflit entre les deux populations. Encore merci.
Merci à vous.
Au revoir.